Bonjour mes frères et sœurs. Lorsque des personnes s'aiment fraternellement, il se produit des échanges entre eux. C'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui, des échanges sur le plan spirituel. Il arrive que deux personnes ou plusieurs personnes s'aiment fraternellement et ça produit une sorte d'osmose. C'est ce qui se produit dans la vraie Église rétablie de Jésus-Christ. On parle beaucoup de communion fraternelle dans les Églises, mais pour avoir fréquenté, pour continuer à fréquenter, parce que je suis souvent invité dans les Églises, ben je peux vous dire que la communion fraternelle, c'est quelque chose d'assez rare, la véritable communion fraternelle. La plupart des gens ne se connaissent pas, et montre une apparence religieuse lors des cultes ou lors des agapes qui ont lieu de temps en temps, mais ça ne suffit pas à unifier le corps de Christ, à créer cette osmose entre les frères et sœurs. Mais lorsqu'on vit en communauté, lorsqu'on est ensemble, évidemment il y a des inconvénients, mais il y a tellement d'avantages. Chaque membre du corps de Christ local se purifie, se renforce, s'amplifie au contact des autres. Et voilà l'avantage d'aimer des gens qui sont régénérés, de les fréquenter le plus possible, de fréquenter des gens, des êtres élevés, des êtres évolués, remplis de l'esprit. Et j'ai remarqué que même quand j'aime des gens spirituels qui ne sont plus de cette terre, par exemple comme ma mère, que je continue à aimer évidemment, ou Camélia, Raphaël, Violette, Osborne, Branham, Vikram Seth, Joseph Smith, tous ces gens qui ont vécu et qui ont vécu quelque chose de très fort, il se produit encore cette osmose. Et je bénéficie encore de leur lumière. Alors, n'allez pas crier « Au secours, ça y est, Michel, pratique le culte des morts !» Mais arrêtez, s'il vous plaît, il faut être intelligent. Tous ces gens ont été en relation avec Jésus lorsqu'ils étaient sur terre, et maintenant qu'ils sont en présence de Jésus dans les lieux célestes, eh bien, je peux recevoir, étant moi-même aussi dans les lieux célestes, en Christ, bien qu'ici-bas, je peux recevoir des lumières. Peut-être vous trouvez ça étrange simplement parce qu'on ne vous l'a jamais enseigné, mais vous, si vous êtes en Christ, dans les lieux célestes, selon Éphésiens 1:3, ce que vous êtes sur la terre va s'en ressentir forcément. Lisons Éphésiens 1:3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Mon esprit, votre esprit, si vous êtes vraiment des chrétiens, il est déjà dans les lieux célestes en Christ. Et qu'est-ce qu'il y voit là-bas haut? Là-bas haut. Qu'est-ce qu'il voit là, dans les lieux célestes? Toutes ces personnes, ces héros de la foi qui nous ont précédés, tous ces gens dont je vous ai parlé, comme Raphaël ou Osborne par exemple, ils sont là, dans les lieux célestes en Christ, où moi-même je suis déjà en esprit. Est-ce que vous croyez que vous êtes en Jésus-Christ, dans les lieux célestes déjà maintenant? Moi je le crois parce que c'est écrit et je peux en tirer des bénéfices. Vous savez, ce n'était pas fameux pour eux d'être en communion avec les gens. Je vous parle d'Osborne, ou de Raphaël, ou de Joseph Smith, ou d'autres, Branham et compagnie. Parce que sur terre, les gens prennent des forces auprès de ces êtres doués, mais eux, ces êtres doués, en échange, qu'est-ce qu'ils retiraient? Ben, il faut bien l'avouer, ils ne retiraient presque toujours que des saletés. Tous les hommes et toutes les femmes de foi qui ont vécu sur cette terre, en manifestant la puissance du Saint-Esprit, ont connu cela de la part des gens du monde, bien sûr, mais le pire, c'était aussi de la part des chrétiens charnels. Les chrétiens charnels sont terribles, sont intransigeants, sont terribles, et sont d'une cruauté, ils se permettent de juger des choses, d'insulter les gloires, sans même se rendre compte de ce qu'ils font, parce qu'ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas régénérés, ils sont charnels. Alors, j'ai bien observé comment vivaient ces gens de foi, et j'ai eu l'immense privilège d'en rencontrer beaucoup, des David Wilkerson, des Osborne, comme je vous disais, ces gens-là. et de passer du temps avec eux, beaucoup de temps avec eux, Raphaël, Violette, Camélia. Eh bien, tous ces gens-là avaient un point commun. Ils avaient accepté de faire des sacrifices. Ils avaient tous appris, avec le temps et l'aide de Dieu, à transformer les impuretés qu'ils recevaient de la part des gens, de la part des chrétiens, et ils supportaient ces choses-là. Ils supportaient ces impuretés et ils ne s'en plaignaient pas publiquement. Ils ne ternissaient pas leur image avec ça. Ainsi, ils pouvaient continuer à aider les faibles, les autres, ceux qui avaient besoin d'eux. Vous savez, ces gens-là ne se faisaient pas appeler maîtres, mais ils étaient des maîtres. Et quand un disciple de Jésus reconnaît un maître envoyé de Dieu, quelqu'un qui est capable d'enseigner des choses profondes, eh bien, si un disciple de Jésus reconnaît un maître envoyé de Dieu et a l'humilité de s'asseoir et de l'écouter et de faire l'effort pour s'identifier à lui, alors il se crée entre son entre guillemets, maître et lui un véritable lien spirituel. Alors, pas mal de gens me demandent, quand je fais des conférences à gauche, à droite ou dans le privé, mais d'où me viennent ces dons spirituels que je manifeste? Évidemment, ils me viennent du grand donateur, de Jésus, c'est lui, hein, c'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut, comme il veut. Mais sans ces envoyés, j'aurais même pas su que ces dons existaient. Vous comprenez? Et c'est parce que j'ai été infiniment respectueux face à ces envoyés de Dieu que ces liens entre eux et moi se sont créés et ont produit quelque chose qui ressemblait à eux, que j'aimais. C'est l'amour qui fait tout. C'est la voie par excellence, c'est l'amour. Je suis toujours étonné de voir que des gens osent lever leur langue contre des hommes comme Branham qui était exaucé de Dieu, comme Osborne qui était exaucé de Dieu. Je ne comprends pas comment ils osent lever la langue et critiquer de telles personnes. Moi, je n'oserais jamais. Je me dis, attention, c'est quelqu'un que Dieu écoute. Et je ne vais pas commencer à critiquer de telles personnes. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ces gens, vous voyez. Ou alors, tout simplement, ils ne sont pas intelligents. Mais la sagesse, l'intelligence, la sagesse, le commencement de la sagesse, ben, c'est la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Rien ne se passe, rien ne vient directement de Jésus-Christ à vous. Tout passe par le corps de Christ qui est son Église. C'est comme ça et c'est pas autrement. Sinon, à quoi cela sert-il que Jésus-Christ ait créé son Église? Et le corps de Christ, son Église, est spirituel, c'est pas un local. C'est spirituel. Alors, peu importe si Luther ou Osborne ou Branham ou Raphaël et tous ces gens ne sont plus sur la terre, en Christ, mes frères et sœurs, en Christ, on ne meurt pas. En Christ, on ne meurt pas. Ces gens-là ne sont pas morts. Jean 11, 25-26, je vous le lis. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ces gens ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Ils sont en Christ dans les lieux célestes comme moi d'ailleurs. Mais moi je suis encore un peu sur la terre et vous aussi. Mais ils ne sont pas morts, je n'ai pas une communion avec les morts. Parce qu'ils ne sont pas morts. La Bible nous dit par ailleurs que nous sommes environnés d'une foule de témoins de Jésus-Christ qui sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Vous trouvez ça dans Hébreux 12, non, pardon, Hébreux 11, 38 d'abord. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là à la fois desquels il était rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant pour en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Et ensuite, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez, nous sommes véritablement entourés de ces gens qui ne sont pas morts. Ils sont en Jésus-Christ bien vivants. Et si vous êtes spirituel, eh bien, mes frères et sœurs, déduisez ce que vous voulez. Moi, ce que je vois, c'est que nous pouvons avoir, non, pas une communion dans le sens, c'est pas la même communion qu'avec les êtres vivants, mais nous pouvons bénéficier de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont écrit, vous voyez. Quand vous lisez un livre d'Osborne, ça a une influence sur vous, enfin, du moins j'espère. Pourquoi ça a une influence sur vous? Parce que les mots qu'il a écrits dans ses livres sont toujours... Ils étaient inspirés par le Saint-Esprit de Christ qui vivait en lui, en Osborne. Et rien de tout cela n'est mort. C'est son ministère qui se prolonge. Michou et moi, mon épouse, Michou et moi, nous sommes mariés depuis 1974. Eh bien, cette osmose existe entre nous. On s'aime tellement qu'on finit même par se ressembler. Le mot « osmose » a plusieurs significations, mais entre autres, « osmose » signifie « influence réciproque »,« interpénétration ». Eh bien, c'est ce qui se passe dans la communion fraternelle. À force de vivre ensemble, on finit par se ressembler, si nous nous aimons, évidemment. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de confiance, alors il y a rejet tôt ou tard, hein. Et ça, c'est dû à la dureté du cœur. C'est comme pour dans le mariage, c'est dû à la dureté du cœur. On ne fait plus confiance à son frère, on ne fait plus confiance à sa sœur, il n'y a plus d'amour. Alors on se donne toutes sortes de bonnes raisons, hein. Je lisais dernièrement que quelqu'un avait quitté un homme de Dieu parce qu'un jour il l'a vu descendre de sa chambre où il était en train d'étudier les Écritures, il l'a vu descendre en chahutant avec des enfants. Il s'est dit, mais bon, il ne s'attendait pas à ce qu'un homme de Dieu puisse chahuter avec des enfants, rigoler, s'amuser, jouer avec eux, un ballon avec eux. Et ça l'a tellement troublé, tellement déçu, que voilà, et ben, il s'est mis, et ça a été un ennemi terrible de cet homme de Dieu, à cause de ça. Il y en a un autre, ce frère avait écrit, l'homme de Dieu avait écrit un livre, et puis il avait cité, n'est-ce pas, un de ses amis chrétiens, puis dans le livre, il a fait une faute d'orthographe dans le nom de ce chrétien. Ben, ce chrétien s'est fâché. Et il est devenu un ennemi du serviteur de Dieu. C'est toujours pour des bêtises. Regardez, frère Osborne, c'est sa moustache. Non, mais où est-ce que va se loger la bêtise? Moi, je veux bien qu'il n'y a pas beaucoup de sages et d'intelligents dans le corps de Christ, d'accord, mais quand même, une telle couche, ça finit par faire peur. C'est toujours des bêtises. Regardez le peuple d'Israël quand il se révoltait contre Moïse. Pourquoi? Parce que dans le désert, il ne pouvait pas manger des concombres. C'est effarant. Un peuple qui avait été 400 ans en esclavage, ils sont libérés par un homme de Dieu et ils trouvent moyen de se révolter contre l'homme de Dieu à cause des concombres. Voilà, c'est ça les chrétiens charnels. Alors j'étais très jeune. Quand j'ai compris combien il serait bénéfique pour moi, mais pour les gens aussi, et en particulier pour l'Église, que je m'identifie aux hommes de Dieu que je rencontrais et qui avaient un ministère de puissance, plutôt que de m'identifier et de trop fréquenter des gens bas de plafond, excusez-moi. Et je les aime, les gens de bas de plafond, mais moi je ne veux pas trop les fréquenter parce que à la fin, ça se décalque sur nous. Faut faire attention. Alors, personne ne m'avait conseillé de chercher à m'identifier aux hommes de Dieu. Personne, même pas eux. Ils étaient trop humbles. Jamais Osborne m'a dit « Sois mon imitateur ». Par contre, Paul, lui, il a osé le dire. Et puis alors là, tous les chrétiens sont d'accord. « Mais c'est Paul qui l'a dit. » « Ah, ben évidemment, c'est Paul qui l'a dit. » Si Osborne osait dire une chose pareille, on lui volerait dans les plumes. Mais c'est Paul qui le dit, alors on le croit. Mais voilà, en son temps, vous croyez qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de lire ça, hein? Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas Paul. 1 Corinthiens 11, 1, voilà ce que ce que notre cher ami Paul écrit. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Vous comprenez? Paul était imitateur de Christ, mais Christ n'était plus là. Le modèle vivant, c'était Paul. Pas seulement Paul, bien sûr, mais Paul écrivait à des gens, il leur dit, mais soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Bon, il était un imitateur de Christ, on n'a pas à imiter des gens qui ne sont pas imitateurs de Christ, ça c'est certain. Bien sûr, il faut être logique, il faut être intelligent. Mais lui, il a osé le dire, ceux qui ont connu Paul et qui ont vu Paul ont eu un privilège immense. Pourtant, hein, vous auriez bien voulu vous connaître Paul. Ben, pourtant, il y a eu des chrétiens qui ont trouvé, n'est-ce pas, que Paul était insupportable, qui ne se rendaient pas compte de la valeur de Paul, et ils ont rien compris de lui, ils n'ont rien pris de lui. Certains l'ont même critiqué, persécuté, contrarié toute sa vie. Mais Paul avait compris une chose. Je vais vous lire dans 2 Corinthiens 12, 10, quelque chose là de précieux. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis juste un peu avant, il dit, toutes les problèmes qu'il a, les souffrances, les outrages, les calamités, puis à la fin il dit, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Il avait déjà des problèmes aussi avec les chrétiens des églises. C'est comme ça. Pour moi, je vis au 21e siècle et je regarde et j'imite les envoyés de Dieu qui réussissent au 21e siècle, au 20e siècle, ce que j'ai connu. Alors, bien sûr, Paul m'inspire, mais il n'y a pas que lui qui m'inspire. Bien sûr que le premier qui m'inspire, c'est Jésus, c'est certain. La Bible nous engage à le prendre pour modèle parfait, c'est certain. La Bible, mais aussi le bon sens, nous engage à prendre Jésus comme modèle parfait, à penser comme lui, à parler comme lui, à agir comme lui. Et si nous le faisons, ben, nous sommes persécutés, c'est-à-dire nous sommes mal compris, et c'est ça que Paul trouvait plaisant. Paul trouvait ça plaisant. Pourquoi ? Parce qu'il se savait juste, il savait qu'il était dans le droit chemin, parce qu'il était imitateur de Christ. Je me rappelle toujours de cette petite phrase que Camélia m'avait dit, « Avant de faire quelque chose, demande-toi, est-ce que Jésus le ferait ?» Si Jésus si tu penses que Jésus ne le ferait pas, ne le fais pas. Voilà, c'est tout. Par exemple, quand je vois tous ces prédicateurs à succès d'aujourd'hui qui jettent leurs vestes sur les gens et qui les font tomber par terre, j'imagine pas Jésus faisant ça. Donc je le fais pas. Vous voyez, je trouve que c'est des pitreries. Honnêtement, je trouve donc j'imite pas ça parce que je n'imagine pas Jésus faisant cela. Vous savez, Jésus était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Et il est le seul vrai modèle parfait. Mais, étant donné que je ne suis pas et que vous n'êtes pas, enfin que vous n'êtes que des hommes et des femmes, et que moi aussi je ne suis qu'un homme, qu'une femme, il est nécessaire de regarder attentivement les gens qui vivent aujourd'hui et qui sont des imitateurs de Jésus-Christ ou ceux qui nous ont précédés. Et de les imiter, comme le faisaient les chrétiens qui n'étaient pas charnels et qui imitaient l'apôtre Paul, qui lui-même imitait Jésus-Christ. Mais en fait, peut-être que je ne suis pas comme vous. Mais moi, quand je me suis converti, je savais très bien que si je restais comme j'étais, ben, j'irais pas loin. Et quand j'ai regardé les gens assis en randonnant dans l'église, ben, je me suis dit que si je faisais comme eux, ben, j'irais pas loin. Je resterais assis sur les bancs d'église tout le temps. Et ça m'a pas enchanté du tout. Alors, j'ai voulu remplacer mes imperfections. Par exemple, j'étais terriblement timide. À l'école, je me rappelle, j'étais rouge de honte quand on me demandait d'aller au tableau ou à la carte de géographie. Oh, Mademoiselle Bugnon, elle m'a fait su. Mademoiselle Bugnon, c'était une de mes institutrices. Alors, elle savait que j'étais timide, alors elle faisait exprès pour m'aider, je pense, hein. Je ne veux pas lui prêter des mauvaises intentions, mais elle me faisait exprès de me faire venir à la carte de géographie, chose que je déteste, la géographie, j'aime pas. Alors j'avais un grand bâton, puis je devais dire où était Yverdon, où était Oullans, où était. Oh, ya, mon Dieu, j'étais mort de trouille, ça me paralysait. Et j'étais capable de plus rien du tout. Mais quand je suis devenu chrétien, j'ai voulu remplacer cette imperfection et bien d'autres par des qualités, par des vertus que je voyais en Raphaël, et puis ensuite en Osborne que j'ai rencontré, et en tous ceux que j'ai eu le privilège de rencontrer, et qui étaient des témoins, pas seulement parce qu'ils blablataient au micro, mais qui étaient aussi des gens qui démontraient la puissance de Dieu en acte, en action, par des prodiges et des miracles. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer. Mais j'ai compris que les gens en général ne veulent pas remplacer leur mentalité limitée. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent garder leur mentalité limitée. Ils la protègent. Ils s'y accrochent. Et c'est pourquoi on peut lire sur leur visage des traces de désordre et de tourments dans lesquels ils sont en train de vivre. Regardez la tête des gens. On voit dans leur regard, éteint la plupart du temps, qu'ils sont dans des tourments. Ils sont chrétiens, mais ils sont dans des tourments. J'ai pas envie d'imiter ça, moi. J'ai pas envie d'imiter des gens comme ça. Parce qu'ils s'accrochent, n'est-ce pas, à leur mentalité qui est limitée. Il faut s'accrocher à la mentalité illimitée de Jésus-Christ et à la mentalité illimitée des imitateurs de Jésus-Christ, comme Paul ou d'autres serviteurs de Dieu, qui étaient non seulement des gens qui parlaient bien, mais qui pouvaient manifester la puissance de Dieu. Leur vie, à ces gens-là, c'est fait que de mesquinerie, de vexation, inspirée par leur nature qui est inférieure, et ils ne veulent pas offrir ça comme un sacrifice vivant à Jésus-Christ, ils ne veulent pas. Quel dommage. L'autre jour, j'étais là dans la région, chez un frère. Et puis, quand on est arrivé, il était en train de brûler des branches mortes. Et donc, il s'est occupé de son feu. Et puis, son épouse nous a fait visiter la maison. Et j'étais avec Michou. Et puis, on parlait. Et puis, on regardait. À un moment donné, on a regardé par la fenêtre ce frère qui brûlait ses branches mortes. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il me disait que ces branches mortes et noires et tordues, c'est en les brûlant qu'elles produisent une splendeur, un feu lumineux et chaud. Et le Saint-Esprit me chuchotait et disait, dis ça aux gens, dis ça aux gens, ne vous obstinez pas à garder vos branches mortes. Toutes ces mesquineries, tous ces trucs, toutes ces imperfections, sacrifiez-les pour qu'elle se transforme en lumière et en chaleur. Mais non, les sacrifier, ça fait peur aux gens. Ils ont toujours peur de perdre quelque chose. Vous voyez, c'est à cause de cette peur de sacrifier leur nature inférieure que les chrétiens passent à côté des vérités essentielles et restent toujours dans les mêmes dogmes et les mêmes machins et tournent en rond dans leurs petites idées étriquées. Et n'avance pas. Quand on leur dit d'entrer en esprit, c'est-à-dire dans l'esprit de leur maître Jésus et de ceux des envoyés de Dieu, ils ressentent ça de façon négative. Ils vont parler de culte de la personnalité. C'est un peu comme si on leur disait de perdre leur liberté. Pourtant, c'est le seul moyen, mes frères et sœurs, pour pouvoir se dépasser soi-même. C'est le seul moyen. Et d'accroître notre liberté, et d'accroître nos pouvoirs spirituels. Mais non, ils veulent être des maîtres avant d'être des disciples. Et ils demandent à Jésus de faire d'eux des maîtres. Alors on a beau demander, mais il y a une façon de. Dieu veut pas nous donner ça comme ça, pouf! Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez? Quel dommage, quel dommage, quelle perte de temps, quelle perte de... Et pendant ce temps-là, les autres, hein, les dingos et les fous de Dieu qui tuent, ben eux, ils font des progrès dans leur mocheté, là. Et puis nous, là, les chrétiens, enfin pas nous, moi que je parle, je me mets pas dedans, hein, mais la plupart végètent, n'est-ce pas, dans leurs petits trucs, leurs machins, leur soi-disant sainteté à la gomme qui sert à rien, c'est malheureux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si vous venez m'écouter, c'est pas pour que je vous chatouille les oreilles, vous le savez bien. Et je prie vraiment sincèrement pour que vous ne tordiez pas le sens de ce que je suis en train de vous dire. Mais je prie pour que vous ayez l'humilité de sacrifier vos vieilles branches noires et tordues. Mes frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et c'est urgent pour chacun de nous d'entrer dans le processus du sacrifice. C'est urgent que Dieu nous aide et vienne à notre secours. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu de parler à ton peuple et de les aider à faire ta volonté. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À bientôt.